Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui de ce jeudi 12 juillet 2018, édition de 19h30 en temps universel, la même heure à Abidjan, Bamako et Dakar. Voici les titres. En République démocratique du Congo, le parti de Jean-Pierre Bemba est en congrès à Kinshasa. Les militants présentent Bemba, leur candidat naturel. Combat meurtrier à Koumba dans le sud-ouest anglophone du Cameroun. En Côte d'Ivoire, aucune consultation du PDCI avant la formation du nouveau gouvernement, c'est ce qu'affirme le parti. Fin du sommet de l'OTAN à Bruxelles, les pays membres ont réaffirmé leur engagement d'augmenter leurs dépenses militaires. Le Mondial 2018 en Russie, les matchs reprennent samedi pour la troisième place entre l'Angleterre et la Belgique. Dimanche, c'est la finale entre la Croatie et la France. Yacouba Ouedraogo sera avec nous dans 10 minutes pour en parler. Mais tout d'abord, le journal. Au Cameroun, le président Paul Biya a ordonné l'ouverture d'une enquête au sein de l'armée. Certains éléments sont soupçonnés d'exécutions sommaires sur des civils dans la région de l'extrême nord, dans une vidéo devenue virale sur Internet. Les précisions depuis Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Juntap.
C'est le ministre camerounais de la communication qui a annoncé l'ouverture de cette enquête, non sans avoir dédouané les forces de défense et de sécurité du Cameroun. Pour le porte-parole du gouvernement, la vidéo d'exécution sommaire attribuée aux militaires camerounais est une manœuvre de désinformation grossière résultant d'un horrible trucage. C'est un fake news, a-t-il ajouté au cours d'un point de presse nocturne. Mais les associations de défense des droits de l'homme du Cameroun ne croient pas aux propos du ministre de la Communication. Elles dénoncent l'impunité au sein des forces de sécurité camerounaises dans la lutte contre Boko Haram et dans les régions anglophones. En rappel, dans une vidéo mise en ligne mardi dernier, l'on aperçoit des hommes armés, entre guillemets militaires de l'armée camerounaise, qui tirent à bout portant sur deux femmes et deux enfants. Selon certains observateurs, la scène se serait déroulée dans l'extrême nord du Cameroun, où l'armée camerounaise lutte contre Boko Haram. Depuis le mois de mai dernier, 4 gendarmes déployés en zone anglophone en cours d'extension pour avoir malmené et ligoté un présumé leader sécessionniste lors de son arrestation. Yaoundé, Emmanuel Juntap. VOA Afrique.
Les élections municipales au Cameroun, initialement prévues en 2018, ont été reportées d'un an. Le mandat des conseillers municipaux est prorogué pour une durée de 12 mois à compter du 15 octobre 2018, indique le décret signé du président Paul Biya. Ces élections locales devraient en principe se tenir en parallèle d'élections présidentielles et législatives. Aucune raison n'a été donnée dans le texte présidentiel pour expliquer l'ajournement de ces élections locales. En Côte d'Ivoire, le PDCI a révélé qu'il n'y avait pas été consulté pour le choix des ministres en vue de constituer le nouveau gouvernement. Cependant, le cabinet compte une douzaine de membres issus de ses rangs. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'est dit étonné de l'attitude du président Alassane Ouattara. Dans une déclaration devant le Conseil des ministres, M. Ouattara, quant à lui, a réfuté toute tension dans la majorité. Au Mali, un peu plus d'un électeur sur trois a récupéré sa carte électorale pour voter au scrutin présidentiel ce 29 juillet. Un document du ministère de l'administration territoriale indique que plus de 3 millions sur 8 millions d'électeurs inscrits ont retiré leur carte. La chef des observateurs de la mission d'observation électorale de l'Union européenne s'est déclarée soucieuse du rythme de distribution des cartes d'électeurs à près de 2 semaines du scrutin. Elle se dit toutefois persuadée de la bonne volonté du gouvernement. Au Sénégal, un tribunal correctionnel de Dakar a prononcé ce jeudi des peines allant jusqu'à 5 ans de prison ferme contre des auteurs de fuite au baccalauréat en 2017, dont un proviseur, des professeurs et des élèves, a-t-on appris auprès d'un avocat de prévenu. La Chine a inauguré aujourd'hui à Ouagadougou sa nouvelle ambassade. C'est un peu plus d'un mois après le rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina. Bagassi Koura.
Le Burkina Faso est devenu en mai le dernier pays à rompre avec Taïwan. L'ouverture officielle de la mission chinoise s'est déroulée dans un hôtel huppé de la capitale. Les diplomates chinois sont installés là provisoirement en attendant la construction d'une nouvelle ambassade. C'est une journée historique, s'est réjoui le vice-premier ministre chinois Hu Chunhua, qui a conduit une importante délégation à Ouagadougou. C'est un signal fort de l'importance que les plus hautes autorités du Burkina Faso et de la Chine accordent aux relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, a affirmé de son côté le premier ministre burkinabé Paul Kabatieba. De nombreuses missions chinoises, dont des équipes médicales, sont déjà arrivées au Burkina Faso pour la mise en œuvre de projets de coopération, notamment la construction d'un grand hôpital à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays.
Selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, va annoncer prochainement des décisions importantes. Nous venons de recevoir la confirmation que notre visite serait la bienvenue prochainement, a affirmé le patron de l'ONU lors d'une conférence de presse. Toujours en République démocratique du Congo, le MLC a ouvert aujourd'hui son congrès à Kinshasa. Les partisans de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba le présentent comme candidat naturel pour briguer la présidence le 23 décembre. La secrétaire générale du MLC a déclaré que le processus électoral est le principal point à l'ordre du jour des assises. L'ouverture de ce congrès s'est déroulée dans une ambiance folklorique et le parti s'apprête à célébrer en septembre ses 20 ans d'existence. Par ailleurs, 92 pêcheurs congolais arrêtés par la marine ougandaise sur le lac Édouard dans l'est du pays sont en prison en Ouganda, a déclaré un officiel congolais. La Russie a tenté aujourd'hui une rencontre entre le gouvernement centrafricain et des troupes armées dans la capitale soudanaise Khartoum. La rencontre organisée par Moscou devait regrouper les principaux groupes armés qui opèrent sur le territoire centrafricain et des représentants du gouvernement. Au Soudan du Sud, le Parlement a adopté un projet de loi qui prolonge de 3 ans le mandat du président Salva Kiir et des autorités de transition. La promulgation de la loi va compliquer les pourparlers de paix. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
La loi a été adoptée à l'unanimité. Depuis 2015, le Soudan du Sud est dirigé par des autorités de transition dont le mandat expire le mois prochain pour l'exécutif et le législatif. Le gouvernement a affirmé que cette prolongation est nécessaire pour éviter un vide institutionnel jusqu'aux prochains accords de paix. Certains députés affirment que cela démontre que le gouvernement et le chef de l'État Salva Kiir ne sont pas prêts à signer un accord de paix avec les rebelles. Pour d'autres, comme le professeur James Okuk, il s'agit d'un moyen de pression sur les rebelles. Sous la médiation du bloc régional est-africain l'IGAD, le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar ont conclu un nouvel accord de partage du pouvoir à Entebbe, en Ouganda. Aussitôt conclu, les rebelles ont émis des réserves sur les pleins pouvoirs détenus par le président Salva Kiir. Pour le moment, l'accord, annoncé à Khartoum, pour un cessez-le-feu permanent, semble être respecté sur le terrain.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Bruxelles, Donald Trump a obtenu l'engagement des alliés d'accélérer la cadence pour augmenter les dépenses militaires. Le président américain déclarait être très content des résultats obtenus à l'issue des 2 journées d'un sommet de l'OTAN. Les précisions avec Irénée Herman-Humbo.
La pression de Donald Trump sur ses partenaires de l'OTAN semble avoir payé. Les alliés vont mettre sur la table très rapidement 33 milliards de dollars, en plus des 957 milliards que les 29 consacrent à leur défense. Ils ont accepté d'accélérer le rythme de l'augmentation de leurs dépenses militaires et de parvenir plus tôt que 2024 à la barre de 2% de leur PIB respectif. M. Trump estime d'ailleurs que c'est grâce à lui que l'OTAN sort beaucoup plus renforcé de ce sommet, des propos que partage son homologue français Emmanuel Macron, qui justifie ce fait entre autres par la mise en œuvre d'une stratégie budgétaire crédible qui correspond aux besoins de l'OTAN. Au-delà de l'accord obtenu lors de ces assises de Bruxelles, une quinzaine de pays, dont l'Allemagne, le Canada, l'Italie et la Belgique, sont encore très loin de l'objectif, avec moins de 1,4% de leur PIB pour la défense en 2018. Après Bruxelles, Donald Trump s'est rendu à Londres où il sera reçu par Theresa May, Premier ministre britannique, et puis par la reine d'Angleterre.
Les ministres de l'Intérieur des 28 membres de l'Union européenne se sont regroupés aujourd'hui pour plancher sur de nouveaux projets visant à empêcher les arrivées de migrants sur le territoire Schengen. Ils doivent notamment clarifier le projet encore flou de plateforme de débarquement en Afrique des migrants secourus en Méditerranée proposé dans les conclusions du sommet sous tension tenu fin juin à Bruxelles. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
La Banque africaine de développement a approuvé un investissement supplémentaire de 10 millions de dollars pour soutenir le Fonds africain de garantie au profit des petites et moyennes entreprises. Ce financement additionnel devra servir à renforcer et à garantir des prêts aux PME sur le continent, mais également à stimuler le développement des entreprises privées et la création d'emplois durables. Plus de 8600 PME africaines ont déjà bénéficié des prêts garantis par l'AGF, ce qui a permis la création de 86 510 emplois. Le Fonds monétaire international a approuvé un nouveau décaissement de plus de 44 millions de dollars pour Madagascar au titre de la facilité élargie de crédit. Le FMI a salué les efforts et les évolutions économiques de la Grande Île. Les perspectives restent positives pour l'institution de Bretton Woods avec des risques découlant de la hausse des prix du pétrole. Le FMI conseille que les nouvelles incitations fiscales à l'investissement devront être modérées. La Direction générale des impôts de la Côte d'Ivoire est satisfaite. L'objectif des rentrées fiscales a été dépassé de plus de 33 milliards de francs CFA. La DGI a ainsi récolté plus de 1106 milliards de francs CFA en hausse de 4,1% par rapport à 2017. Et malgré la non-perception de 80 milliards de francs CFA sur les droits d'enregistrement du cacao.
À présent, le journal des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous et bienvenue au journal du Mondial. Pas de match aujourd'hui et demain. Tous les regards sont tournés vers la finale de dimanche entre la France et la Croatie. Les Bleus ont repris les répétitions. Aujourd'hui, 6 joueurs de l'équipe type étaient absents de l'entraînement collectif. Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Kylian Mbappé, Olivier Giroud. Les 5 autres titulaires, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Pogba et Antoine Griezmann, ont fait un entraînement aménagé en compagnie du préparateur physique. Le sélectionneur Didier Deschamps avait prévenu que ces joueurs vont récupéré pendant 48 heures après la victoire en demi-finale. La France aura affaire à une équipe croate qui a fait son petit bonhomme de chemin dans ce mondial et qui est sortie hier d'une troisième prolongation de suite. La question de la fatigue de 3 fois 120 minutes de suite se pose, mais les Bleus ne veulent pas se laisser leurrer par cela. Écoutons l'un des défenseurs, buteur en demi-finale, Samuel Umtiti.
Il y a de la fatigue et surtout quand on a enchaîné 3 prolongations, je pense qu'il physiquement... Ils doivent être fatigués, mais après, quand on joue une finale, je pense, ça passe après. La fatigue, on n'y pense pas trop. Sur un match, on se dit qu'on peut être champion du monde. Donc, même avec la fatigue, je pense qu'ils seront là, ils seront présents. Ils vont continuer à courir comme ils le font sur tous leurs matchs.
La France a souvent fait l'objet de critiques du fait de la forte présence de joueurs d'origine africaine dans ses rangs. Paul Pogba, milieu de terrain français d'origine guinéenne, voit en cela la beauté de la culture française.
Il y a beaucoup d'origine ici, ce qui fait la France une belle France, de belles couleurs. Vous voyez, il y a des origines, c'est comme ça. La France d'aujourd'hui, c'est une France avec plein de couleurs, ça ne veut pas dire. On se sent tous français, on est heureux de porter ce maillot. On est heureux, moi je suis très heureux d'avoir grandi en France, d'avoir la culture française, même si je suis parti très tôt à l'étranger. Mais voilà, la France elle est belle comme ça, c'est comme ça qu'on l'aime et c'est comme ça qu'on l'aimera toujours.
Cette finale, la France-Croatie s'invite dans tous les débats jusqu'au sommet de l'OTAN à Bruxelles. Le président français Emmanuel Macron n'a pas échappé à la question. Voici sa réponse.
En attendant, il y aura en effet un rendez-vous important dimanche après-midi à Moscou. Il n'est ni de l'économie, ni de la sécurité collective, mais du sport. Et nous serons là. Je ne fais jamais de pronostic public parce que je suis superstitieux. L'Europe est en finale. C'est déjà une très belle nouvelle. Il y a 4 équipes européennes en demi. Et vous savez, le soutien fort que j'apporte à nos Bleus, il y aura tout un pays derrière eux avec beaucoup de force, beaucoup d'enthousiasme. Quand on a vu ce qu'ils ont su soulever il y a 2 jours, avec sans doute un peu de fébrilité, mais avec la volonté de rapporter une coupe et une deuxième étoile.
France-Croatie, c'est dimanche à 15h, temps universel. Bien avant, il y aura dès samedi le match pour la 3e place entre l'Angleterre et la Belgique à 14h.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, un nouveau gouvernement avec 41 ministres et secrétaires d'État est en place depuis mardi. La nouvelle équipe est largement dominée par le RDR et des personnalités favorables au projet du président Alassane Ouattara d'avoir un parti unifié en vue des élections de 2020. Le PDCI est un des grands partis de cette coalition au pouvoir et elle s'est étonnée de ne pas avoir été consultée avec ce nouveau gouvernement. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Emmanuel Gourang-Gagnin, président du comité d'organisation du congrès du PDCI.
C'est l'étonnement, c'est ce que dit le communiqué de la réunion. Bien sûr, il y a des personnalités du PDCI qui sont dans ce gouvernement. Tous les anciens ministres ont été reconduits. Mieux, il y a de nouveaux ministres issus du PDCI qui ont fait leur entrée dans ce gouvernement. Mais le président Bédié, en tant que président du PDCI et président du présidium des partis membres du PDCI, n'a pas été consulté pour la formation de cette équipe.
Donc, Est-ce que ça signifie qu'il y a, comme on dirait, de l'eau dans le gaz à l'intérieur du RHDP?
Ben écoutez, non, nous on ne souhaite pas qu'il y ait de l'eau dans le gaz. Il faut que nous restons dans le dialogue. Le dernier bureau politique du PDCI a adhéré à l'idée de parti unifié pour lequel le président Bédié a signé un document. Mais le bureau politique a indiqué que c'est après son congrès, qui va se tenir après les échéances électorales, notamment la présidentielle de 2020, qu'il va aller à un congrès pour éventuellement adopter les documents qui vont créer le parti unifié.
Votre principal allié, le RDR, veut plutôt aller dans le sens inverse, parti unifié avant 2020.
Ça, nous, on souhaite le faire après 2020. Le bureau politique a mandaté le président Bédié de poursuivre les négociations parce que nous souhaitions qu'il y ait accord sur ce point politique important. Le PDCI dit qu'il va présenter un candidat pour 2020 et que nos alliés, les autres membres du rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, soutiennent le candidat que le PDCI va présenter pour les élections de 2020, comme le PDCI l'a fait pour les élections, disons, deuxième tour à l'élection présidentielle de 2010 et l'élection présidentielle de 2015.
Le RDR est en train de préparer un candidat qui n'a pas encore dit son nom. On a tout comme l'impression.
Espérons que ça n'en sera pas ainsi. Nous, on souhaite, pour la concorde, que le RDR soutienne le candidat que le PDCI va présenter et il demande aux autres partis membres du RHDP de soutenir ce candidat qu'il va présenter.
Donc, et les membres du PDCI qui ont déjà commencé à soutenir l'idée du parti unifié et qui sont restés même au gouvernement, et ces dissidences-là, qu'est-ce que vous en faites?
Mais ces dissidences, on avisera, mais vous savez que la politique, c'est l'art de l'impossible. Nous espérons qu'avec le temps, peut-être la sagesse va nous habiter tous, pour que nous nous retrouvions, que nous soyons ensemble comme nous l'avons toujours été depuis la création du RHDP.
Emmanuel Gourang-Gagnin, président du comité d'organisation du congrès du PDCI.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Fin aujourd'hui à minuit de l'opération de dépôt des candidatures aux législatives provinciales. Alors, elle devait être clôturée depuis le dimanche 8 juillet et dans les locaux de la CENI à Goma, comme dans la plupart des bureaux de réception en RDC, l'engouement est apparu au dernier jour. Charlie Kasiraka, notre correspondant à Goma, est allé constater l'ambiance.
Ils viennent en fanfare avec des chandelières partisans aux allures d'une pré-campagne électorale. Dans la salle des réceptions du bureau de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, certains mettent les derniers points sur leur dossier de candidature et d'autres sont tout simplement contents de voir leur dossier accepté par les bureaux de réception. Roger Malinga est venu déposer au compte de la coalition des partis de la majorité au pouvoir.
Que ce soit celui qui a déposé les premiers, celui qui dépose les derniers, tous les dossiers seront traités à la CENI. Mais nous voulions nous rassurer de nos dossiers, de toutes les pièces que la CENI voudrait avoir, si réellement nous les avons, et effectivement nous les avons, c'est comme ça que nous avons préféré déposer aujourd'hui. Notre souhait est que la CENI travaille dans la transparence.
Dans cette ambiance, les partis formant l'Assemblée, une coalition des partis politiques de l'opposition, soutenant l'opposant en exil, Moïse Katumbi, viennent aussi déposer leur candidature, mais posent toujours des préalables, entre autres les retours au pays de leur président Katumbi.
Marius Mambo.
Parce que nous sommes prêts, c'est pourquoi nous sommes venus déposer nos candidatures, mais nous posons toujours nos préalables. Il y a la révision des fichiers, il y a la machine à voter et tant d'autres.
Parmi ceux qui viennent déposer les dossiers de candidature, il y a aussi des jeunes qui souhaitent un changement radical dans les institutions de l'État. Richard Bongagne, à la trentaine, est jeune entrepreneur de Goma, veut aussi se lancer.
La motivation est que j'ai envie de changer ma, j'ai une vision et je pense apporter ma part quoi, de contribution.
Au gouverneur des provinces des Rassiérés, qu'aucun incident majeur sur les plans sécuritaires n'a jusque-là été signalé.
S'il y a des problèmes, nous y apporterons très rapidement des solutions. Mais à l'heure qu'il est, nous nous réjouissons que les forces de défense et de sécurité aussi s'acquittent de leur devoir pour que les candidats déposent leurs dossiers dans les très bonnes conditions.
Jusqu'à ce jeudi dans la soirée, une cinquantaine de dossiers a été enregistré et l'opération continue jusqu'à minuit, précise Iber Kassioua, chef de la CENI au Nord Kivu, profitant du micro de VOA Afrique pour faire un plaidoyer sur les prix des procès verbales auprès des officiers de la police pour ceux qui ont perdu leur carte d'électeur.
Seulement qu'aujourd'hui, à 0h, c'est la fin de la validité des jetons. Jusqu'hier, on avait déjà traité 48 candidatures, mais c'est un bilan provisoire. Et donc, ce n'est pas encore le moment de faire le bilan. Conformément au calendrier de la CENI, c'est le 25 juin, on va publier la liste de tous les partis qui vont concourir aux élections.
En attendant, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, maintient les débits de réception des dossiers de candidatures à la présidentielle et législative nationale à la date du 25 juillet prochain. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Au Congo-Brazzaville, les populations du Poule déplacées lors des violences armées de ces deux dernières années continuent d'appeler le gouvernement à les aider à retourner chez elles. Le plan de relèvement mis en place par les autorités tarde à se réaliser, faute de moyens. Le gouvernement américain apporte un nouveau soutien de 1,3 million de dollars pour lancer cette opération, comme nous l'explique notre correspondant Arsène Séverin qui s'est rendu à Mindouli lors du lancement de cette opération.
Les déplacés du Poule, candidats au retour dans leur village, font face au défi du relèvement, c'est-à-dire qu'il faut être assez courageux pour retourner recommencer la vie à zéro avec rien, car tout a été détruit. Les sinistrés du Poule l'indiquent ici eux-mêmes.
Il n'y a rien, aucune chose. On vit pas avec le cadeau de rue qu'on avait donné par le pain, les haricots, plus un peu de gari. C'est ce qu'on vit. Mais pour le manioc, aujourd'hui, on n'a rien.
C'est difficile, très, tellement difficile. On souffre ici. On souffre beaucoup ici.
Basile Compadissa, un agriculteur en chômage, ajoute.
On a tout perdu, on n'a plus rien. Les poissons qui étaient avec nous, les assaillants, ils ont tout gaspillé, ils ont tout pillé. Ils sont même aux petits élevins. Et les bêtes, ils ont pillé, on n'a plus rien. Vraiment, nous sommes presque à terre. Il faut un appui pour avoir une bonne départ.
Oscar Diabankwizi, chef du village Loutéété dans le district de Mindouli, insiste que sans aide consistante, il n'est pas possible de retourner dans un village quasiment effacé de la carte du Congo.
Nous avons été sévis par une crise sociopolitique et nous avons perdu beaucoup de choses. Les maisons incendiées, détruites, cassées, en partie tout comme entier, les matériels aratoires volés. Donc il nous faut en fait un bon soutien.
Le maire de Mindouli, Jean Bosco Mahungu, vit au quotidien les plaintes de ces déplacés de Mini qui tiennent à repartir au Berkay.
Ils étaient obligés d'attendre la fin de l'année scolaire, donc garder les enfants à l'école ici. Mais pour certains, les enfants ont presque abandonné l'école. Donc il faut accompagner les populations qui repartent en réhabilitant les infrastructures sociales, notamment l'école et les centres de santé, mais aussi accompagner les populations dans la relance des activités agro-pastorales. Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart, avoir ne fût-ce que la machette, c'est vraiment difficile.
Les autorités savent que le défi est énorme. À travers des promesses fermes, elles continuent de rassurer les populations vulnérables que l'appui au relèvement arrivera bientôt. Antoinette Ndinga-Diondo, ministre en charge de l'action humanitaire.
Nous avons compris ce message et nous sommes en train de préparer pour revenir plus tard pour remettre et le matériel aratoire et les semences et les boutures de manioc pour que les gens reprennent leurs activités agro-pastorales.
Les États-Unis, à travers leur agence d'aide internationale USAID, sont encore les premiers, comme l'année dernière avec l'aide alimentaire, à apporter 1,3 million de dollars, soit environ 725 millions de francs CFA, pour soutenir le nouveau départ des déplacés qui veulent retourner dans leur village. L'ambassadeur américain Todd Haskell s'est lui-même rendu à Mindouli pour lancer cette opération. Du retour de Mindouli dans le pool, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Montou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h sur Universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook, tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Michel Joseph, à la console Nyang et Kiabadou à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programmes en notre compagnie.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, Arakat al-Shabaab, al-Mujahideen ou al-Shabaab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisation terroriste, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres au groupe, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ses militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulane Yare, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquêtes et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Et tout de suite.